Alors c'est bon là pour le train, il roule le vôtre aujourd'hui, 8 TGV Atlantique sur 10 ce week-end, les vacanciers devraient pouvoir rentrer. C'est quand même particulier ce qui s'est passé à la SNCF pendant ces vacances, les TER, les TGV, des cheminots qui posent le sac sans préavis. Alors certains parlent de gilet jaunisation et d'une guérilla qui pourrait continuer. En tout cas on a compris. Le 5 décembre, ce sera un jeudi, appel à la grève contre la réforme des retraites. Franchement, pas sûr que ce soit indiqué de prendre un billet. Et tout le monde a en tête 1995. Est-ce que la situation est comparable? Est-ce que cette fois-ci, la grève par procuration, c'est envisageable? Franchement, il est trop tôt pour avoir une opinion. Mais dans la majorité, on y pense aussi. Si on ne fait pas la réforme des retraites, c'est Juppé, me dit ce député marcheur. Et Juppé, personne ne se souvient de ce qu'il a fait de bien avant 95. Donc on ira, affirme-t-il, aussi loin que possible pour garder notre image, la capacité réformatrice.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et moi j'en conclus que réforme il y aura, mais on ne sait pas laquelle sera. Bienvenue, c'est samedi, c'est Économie avec Coy Nguyen, le réalisateur, Maud Ventura, notre attaché de production, et Guillaume Roux à la technique. Ils veulent se marier, PSA et Fiat Chrysler, les bans ont été publiés cette semaine. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise pour l'éternité, bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Et bonjour à vous Emmanuel Lechypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Emmanuel, vous, est-ce que 95, j'ai dit qu'il était trop tôt pour avoir une opinion, mais est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une mobilisation forte?
Ah bah, les conditions nécessaires sont réunies. Il y a des fois où on savait que c'était pas le cas. Là, oui, les conditions nécessaires sont réunies. Rappelez-vous que 95, ça n'est quasiment que, entre guillemets, une réforme des régimes spéciaux de retraite. Là, vous êtes sur une réforme des régimes spéciaux de retraite, plus sur une réforme systémique de la SNCF. Hein. Tout va changer. Le statut, les conditions de concurrence, le statut de l'entreprise, etc. Donc oui, il y a un cocktail explosif qui peut nous faire revivre 95.
Ah, carrément, un blocage. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si la réforme par procuration, c'est encore envisageable. S'il peut y avoir une agrégation des colères. Allez, les débatteurs, ils ont toujours quelque chose d'intéressant à nous expliquer. On les retrouve dans 20 secondes sur le mariage PSA Fiat Chrysler. Le temps de vous dire que ce matin, nous zoomons sur les cadres. Aujourd'hui, les recrutements augmentent, les salaires aussi. La politique fiscale du gouvernement se soucie désormais des classes moyennes. Peut-on encore parler de malaise des cadres? Ce matin, François Omri, le président de la CFE-CGC, est avec nous. Ce sera à 9h45. Et bien sûr, on lui demandera ce qu'il pense des réformes sociales. Ça sera tout juste avant, tout juste après ma vie au boulot, avec Sandrine Foulon, juste avant 10h. Allez, je m'y retrouve. Mais tout de suite, PSA et Fiat Chrysler, faut-il se réjouir de l'annonce du mariage?
31 octobre 2019.
PSA, Fiat Chrysler, la fusion est bien lancée.
Mariage entre Fiat Chrysler et PSA.
PSA et Fiat Chrysler se disent oui.
184 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 409 000 personnes. C'est un truc de dingue.
C'est la naissance à venir du quatrième constructeur automobile au monde.
Ça crée effectivement le quatrième acteur mondial.
Agnès Pannier-Runacher.
Donc ça renforce la solidité du groupe PSA.
Secrétaire d'État à l'économie.
Mais nous, ce que nous voyons, c'est que les constructeurs français aujourd'hui ont sorti leur épingle du jeu à un moment où vous avez une transformation de l'industrie automobile qui est majeure, non seulement l'électrification, mais également la voiture autonome, et que pour mener ces combats, il faut être gros pour pouvoir faire des gros investissements.
Pour l'industrie automobile, les temps changent.
Flavien Neuville.
On a eu 10 ans de croissance très forte au niveau mondial des immatriculations.
Observatoire CTLM de l'automobile.
Et là, les ventes sont en train de baisser. Donc le vrai déterminant, au-delà des synergies qui permettent d'augmenter la rentabilité, c'est de savoir si les clients vont continuer à acheter des voitures.
Le marché automobile, c'est un marché extrêmement difficile.
Olivier Babot.
Avec des défis qui sont absolument ahurissants.
Institut Sapiens.
Aujourd'hui, on achète une Renault, une Fiat. Est-ce que demain, on va pas acheter une Google? C'est-à-dire que demain, est-ce que ce n'est pas le logiciel d'intelligence artificielle qui va permettre la voiture autonome, la conduite autonome, qui va faire la vraie valeur? Et donc, est-ce qu'ils seront pas en back-office, juste que des assembleurs? C'est leur vraie crainte. Et donc, ils doivent être de plus en plus gros. Ouais, mais... Ces mouvements de fusion, ils font que commencer.
Les deux groupes actionnaires à 50-50.
Hein. Mariage sans fermeture d'usine, disent les deux constructeurs.
Moi, j'ai aucune confiance dans les paroles d'un patron.
Julien Vostine.
Évidemment, sur la table.
Délégué CGT PSA, Mulhouse.
Ils ont déjà mis le nombre d'usines de moteurs, le nombre d'usines de bois de vitesse, le nombre d'unités terminales de chacun des constructeurs. Ils annoncent 3,7 milliards d'économies. Ça veut dire forcément qu'ils vont attaquer nos emplois.
En se renforçant,
Sibeth Ndiaye,
en devenant le quatrième constructeur automobile,
porte-parole du gouvernement.
C'est le meilleur chemin pour avoir des garanties de lutter efficacement contre la concurrence et de fait donc pour l'emploi.
Qui coince, c'est le choix des Pays-Bas pour le siège. Les syndicats de PSA dénoncent tous ou presque la magouille fiscale.
Vous avez compris pourquoi le siège social s'installe aux Pays-Bas ?
C'est question fiscale, non ?
Laurent Berger.
Ça, je trouve ça scandaleux.
Secrétaire général de la CFDT.
À moins qu'on m'explique qu'aux Pays-Bas, il y a une raison particulière pour trois entreprises dont aucune est néerlandaise. Non, ça, c'est objectivement scandaleux.
L'industrie automobile, ça nous intéresse. Ce sont des usines, des emplois, c'est de l'histoire, c'est du fantasme aussi, la voiture. Christian Chavagneux, est-ce qu'on s'y attendait à ce mariage PSA et Fiat Chrysler ?
On sait que Fiat Chrysler, depuis des années, est en quête d'un conjoint, si je puis dire, ou d'une conjointe, je ne sais pas quel sexe.
C'est pas toujours facile. Ouais.
C'est pas toujours facile, ouais, parce que cette entreprise avait trois et a toujours trois gros problèmes à résoudre. D'abord, elles ont la petite Fiat 500, les voitures de luxe, et entre deux pour la citadine, il y a rien. Et donc, c'est ce qu'on attend plutôt pour demain en termes de voitures, des petites voitures qui permettent de se déplacer en ville. Ils n'ont pas, donc il fallait trouver un partenaire. Ils sont très en retard dans ce que tout le monde nous présente comme l'avenir de la voiture, l'électrique. Ils n'ont pas investi, donc il fallait trouver aussi un partenaire qui aille de ce côté-là. Et les performances sont en baisse ces dernières années. Donc il fallait vraiment essayer de se rebooster un peu. Peugeot de son côté est très européen. Ça va lui donner un pied aux États-Unis, parce que Fiat Chrysler avec ses Jeep, etc. est très présent aux États-Unis, c'est 4x4. Et puis Peugeot, c'est 4,7 milliards de recherche et développement en 2018. C'est 5-6% du chiffre d'affaires. Pour Fiat, c'est à peu près 2%. Donc on a vraiment un très très gros écart. Et on sait que les nouvelles normes européennes arrivent pour 2021, mais ça commence à se mettre en œuvre en 2020, des normes extrêmement strictes sur les émissions de CO2 possibles pour les voitures. Et là, Fiat est complètement à la ramasse, alors que Peugeot est plutôt en avance. Donc Fiat cherchait du monde, Peugeot avait besoin de grossir pour être un acteur mondial. Voilà, le mariage était attendu.
Alors là, vous nous présentez quand même un mariage gagnant-gagnant. Emmanuel Lechypre, on y croit aux fusions entre égaux dans l'industrie ?
Là déjà, on est effectivement... De toute façon, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, dans l'industrie automobile mondiale, compte tenu des sommes à mettre en jeu pour faire les investissements sur les technologies de demain et pour générer des économies... Rappelez-vous, c'est Carlos Ghosn qui avait lancé cette idée qui était de dire il faut mettre au maximum en commun tout ce qui ne se voit pas et faire la différenciation maximale sur tout ce qui se voit pour que chaque marque garde son identité. Et ça, c'est cette logique-là qui va faire qu'on va avoir effectivement des synergies. Séparément, PSA, c'était le combientième constructeur mondial. Attendez que je vous dise ça. Là, on va avoir le quatrième alors qu'ils étaient neuvième et dixième, grosso modo. Voilà. Et donc, vous allez automatiquement avoir un constructeur de taille respectable. Ça s'est fait facilement parce que vous avez quand même deux familles qui sont des vieilles familles de l'industrie automobile.
C'est curieux, hein,
oui,
ça
parce
compte.
Que, évidemment, c'est quand même plus facile que si parce que vous avez quand même un code génétique qui est le même, un rapport à la voiture qui est le même, et puis c'est des familles qui se connaissent intimement. Hein. Rappelez-vous que c'est des familles, Peugeot et Fiat, c'est des marques qui collaborent depuis les années 1970, notamment sur les véhicules utilitaires. Donc c'est des familles, et ça a quand même accéléré le processus incontestablement.
Ils y aient déjà pensé avant, n'est-ce pas ?
Si vous voulez, pour Fiat, il n'y avait pas 36 solutions. C'était soit Renault, soit PSA. Et donc, effectivement, il y avait eu plusieurs discussions au cours des dernières années. Il y en avait encore eu au Salon de Genève entre John Elkann, l'héritier Agnelli, et Carlos Tavares. Il y avait eu l'épisode Renault entre les deux. Alors, c'est vrai qu'effectivement, sur le papier, il y a beaucoup de complémentarité. Hein. Christian l'a dit, PSA reste un constructeur européen. Là, si vous regardez la complémentarité de l'ensemble, c'est une gamme qui, effectivement, va couvrir tous les besoins. Du véhicule le plus basique à la voiture de luxe. On a les moyens de l'innovation sur la motorisation, etc. Fiat était quand même très très en retard. Et puis, l'accès pour les uns au marché américain et pour les autres à renforcement européen. La grande faiblesse, c'est quand même la Chine. Songez que cumulé, les deux constructeurs font moins de 1% du marché chinois. Là, ce sera le grand défi. Après, moi, je pense que ça peut bien se passer parce que, clairement, vous allez avoir l'opérationnel qui va aller à PSA. Et à Carlos Tavares et puis le capital qui va rester chez John Elkann, mais je pense que c'est assez clair, c'est Carlos Tavares et PSA qui auront quand même la main sur l'opérationnel.
Christian Chavagneux, pourquoi?
Oui, moi je crois pas trop à l'idée.
À l'idée
que
oui, des familles.
C'est vrai que les deux familles se connaissent, on sait, mais je crois pas trop à cette idée dans le fait que ça ait facilité. Pourquoi? Parce que la famille Peugeot aujourd'hui, c'est 12,2% du capital, comme le chinois Dongfeng, comme l'État français. Donc, c'est Peugeot aujourd'hui, c'est autant une entreprise chinoise, ce serait, pour dire, c'est une entreprise chinoise comme une entreprise Peugeot. Donc, je pense pas que ça joue. Le capitalisme contemporain repose, on le voit dans tous les secteurs, on le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, sur la concentration. Il y a une dynamique de on va lutter, et le ZAP le disait bien, on va lutter contre la concurrence en créant des monstres. Et à chaque fois qu'on crée des monstres, ça fait augmenter les prix, ça fait augmenter les marges, ça fait augmenter les bénéfices. Et ça, c'est ce que John Elkann, c'est pas du tout un spécialiste de la voiture, l'héritier des Agnelli, et celui qui dirige Fiat Chrysler. C'est un pur financier. John Elkann, il est le patron en fait enfin, Fiat Chrysler, c'est la propriété d'Exor, qui est en fait un fonds d'investissement, qui a investi dans la Juventus de Turin, qui est au capital de The Economist, qui a racheté un réassureur, qui est dans la voiture. Vous voyez, plein de secteurs. Et lui, ce qu'il veut, c'est que ça crache du profit. La voiture, il n'en a pas grand-chose à faire. À mon avis, l'objectif est clair. Il va falloir cracher du dividende pour l'actionnaire, d'où les problèmes signalés avant. Peu d'investissement pour cracher du profit. Fiat, aujourd'hui, c'est une entreprise financière qui, tout d'un coup, se rappelle que dans l'industrie automobile, il faut quand même des investissements. C'est pour ça qu'il veut se marier avec Peugeot.
Oui, mais paradoxalement, c'est pour ça que ça peut bien se passer. Parce que les fusions entre égaux qui ne réussissent pas, c'est les fusions entre égaux OS. Oui. Et pas les fusions entre égaux capitalistiques. Or là, encore une fois... La répartition des rôles, elle est quand même extrêmement claire. Hein. John Elkann, effectivement, lui, c'est un investisseur, c'est un financier. Carlos Tavares, quand même, il a montré, parce que c'est ça, si on se dit, est-ce que entre deux groupes aux cultures différentes, ça peut marcher. Mais tous les atouts sont réunis pour que ça marche. N'oubliez pas que Carlos Tavares, il a quand même intégré dans PSA un canard boiteux qui s'appelle Opel.
Ouais,
Il a redressé
il a
de façon
des emplois,
spectaculaire. De façon sur le plan financier, et puis surtout il a su intégrer culturellement Opel. Or chez Opel vous aviez des ingénieurs qui étaient habitués à travailler avec les États-Unis. En gros, vous avez beaucoup plus de garanties pour que ça se passe bien entre PSA et Fiat que si ça avait été Renault et Fiat.
Bon, ça fait plusieurs fois que vous nous dites que ça peut bien se passer. On va aller voir en Italie ce qui se dit, si on est content de la noce.
Il matrimonio tra il gruppo francese PSA, proprietario di Peugeot, e Fiat Chrysler è l'ultima mossa che può rimodellare il settore automobilistico globale.
Bonjour Olivier Tosseri.
Bonjour Alexandra.
Olivier, vous êtes correspondant de France Inter à Rome. Alors, ce mariage automobile franco-italien, qu'est-ce qu'on en dit chez vous? Est-ce qu'on dit bravo? Est-ce qu'on dit bravissimo?
Oui, on dit bravissimo, même si on ne va pas jusqu'à ouvrir une bouteille de Prosecco. Ce n'est pas le mariage du siècle, comme était présenté ici celui entre FCA et Renault. En Italie, on se souvient de l'échec récent des négociations. À l'époque, on avait critiqué le traditionnel souverainisme économique de l'État français. Cette fois, on a affaire à deux groupes familiaux et le capitalisme familial est dans l'ADN de l'économie italienne. Peugeot et Fiat se comprennent donc mieux, mais surtout, ils se connaissent très bien. Il n'y a pas d'obstacle majeur dans cette opération de consolidation du secteur automobile qui est jugée ici de toute façon inéluctable. C'est la conviction du patronat qui se félicite de la naissance du futur quatrième groupe mondial. Pour le président de Confindustria, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Nous avons un accord qui fait potentiellement naître un géant européen, a commenté Vincenzo Boccia. Il s'en félicite. Nous avons besoin d'un géant européen pour affronter les défis lancés par la Chine et les États-Unis.
Olivier, mais chez vous aussi, en Italie, on entend des voix pour dire qu'il faut être vigilant sur les usines, sur les emplois.
Évidemment, c'est la grande préoccupation des syndicats. Ils reconnaissent dans l'ouverture des négociations une grande occasion, une grande opportunité, mais ils s'inquiètent pour les synergies annoncées et les économies d'échelle qui pourraient bien conduire à la fermeture d'usines. Carlos Tavares est présenté dans la presse transalpine comme le marchionne français, l'emblématique patron de FCA récemment disparu, celui qui n'hésite pas à réduire la masse salariale pour sauver les entreprises. Il vient d'ailleurs de le prouver avec environ 6000 suppressions d'emplois chez Opel. Faire naître un grand groupe industriel est positif, estiment les syndicats, mais la priorité doit être de développer et relancer la production en Italie. C'est ce que demande également le président du conseil, Giuseppe Conte, qui n'a même pas reçu un coup de fil pour être averti des négociations, à l'inverse de ce qui s'est passé pour l'Elysée et pour Bercy. Giuseppe Conte s'entretiendra rapidement avec John Elkann pour s'assurer de la poursuite de l'actuel plan industriel de FCA, mais surtout du maintien des investissements dans la péninsule.
Oui, parce qu'Olivier, on peut quand même rappeler que Fiat, ça reste une entreprise fragile, qui a besoin d'un plan d'investissement.
Oui. Exactement, ce n'est plus la grande reine de l'industrie italienne comme par le passé. FCA n'emploie plus que 66 000 personnes en Italie, ce qui n'est pas non plus négligeable. Le dernier plan industriel de Fiat Chrysler prévoit en Italie 5 milliards d'euros d'investissement. La plus grande usine du groupe en Europe se trouve d'ailleurs à Melfi en Basilicate. FCA dispose dans la péninsule d'une capacité de production de 1,5 million de véhicules par an, ce qui est surdimensionné de 33%. En 2018, les ventes du groupe ont chuté de 8,8% en Europe et de 20% en Italie. Le taux d'utilisation des usines européennes est inférieur à 60% et la production dans la botte a chuté de 10% l'an dernier. Une faiblesse qui inquiète les syndicats et le gouvernement italien dans la perspective du mariage avec PSA.
Olivier Tosseri avec nous depuis Rome. Christian, est-ce qu'on peut se résumer qui gagne quoi ?
Oui, oui. Alors normalement, c'est un mariage 50-50. Donc Gian Elkann, le financier, devient le président.
Là, on parle du capital.
Là, on parle du capital, pardon.
De la future entreprise.
Oui, exactement. Carlos Tavares, lui, est directeur général pendant 5 ans. Donc celui qui va faire tourner la boîte, c'est le patron français. D'accord, enfin, portugais pour le coup, de l'entreprise française. Conseil d'administration, 11 membres, 6 de PSA et 5 de Fiat. Donc on voit que vraiment, c'est plutôt un mariage entre égaux, mais que ça va plutôt profiter à priori, à PSA. Les actionnaires quand même de Peugeot, un dividende spécial de 3 milliards va être donné. Les actionnaires de Fiat, 5,5 milliards en cash. C'est pour ça, alors que Peugeot est bien plus forte aujourd'hui, il vaut plus en bourse que Fiat, c'est Fiat qui a plus monté que Peugeot parce qu'au moins les actionnaires de Fiat ils vont toucher du cash tout de suite, alors que ceux de Peugeot on leur a promis un dividende demain. Bon, ça c'est les magouilles financières. Est-ce que les salariés vont en profiter ou pas? On nous dit, comme toujours, pas de fermeture d'usine. Bon, c'est très bien, on l'a rappelé tout à l'heure dans le bac, le correspondant que Opel, Carlos Tavares, il n'a pas hésité. Donc on peut garder toutes les usines, mais on peut couper des lignes dans les usines. Ouais. On peut arrêter d'avoir recours aux intérimaires. Donc on peut garder toutes les usines, promesse tenue.
Empreinte industrielle.
Mais diminuer l'emploi. Et puis, est-ce que le fisc va gagner? On l'a entendu un petit peu dans le ZAP. Pourquoi est-ce que ça va être une entreprise dont le holding va être aux Pays-Bas? Parce que Fiat aujourd'hui est déjà aux Pays-Bas. Et en travaillant un peu, en cherchant un peu, je me suis aperçu que Fiat n'est pas résident fiscal hollandais. Fiat est résident fiscal britannique. Et donc, vous allez pouvoir, vous vous rappelez les petits trucs de Google quand on vous disait le fameux sandwich irlandais,
oui,
etc.
Oui.
Où on passe par l'Angleterre avec deux filiales, puis on passe par l'Irlande, puis on passe par les Pays-Bas, tout ça. Pourquoi ? Pour éviter que quand vous faites des plus-values, quand vous touchez des intérêts ou des dividendes, vous soyez fiscalisé. Eh bien, je pense que c'est le même mécanisme que Fiat a déjà mis en œuvre, que malheureusement le holding va mettre en œuvre. Résident fiscal britannique, échange d'informations, échange de flux financiers sans taxation, notamment sur les plus-values, sur les dividendes avec les Pays-Bas. C'est vraiment de l'optimisation fiscale agressive. C'est vraiment dommage que PSA se prête à ça.
Emmanuel Le Chypre, il y a des questions en suspens.
Il y a des questions en suspens, effectivement, sur d'abord que va faire l'État français.
Dites-moi pourquoi l'État français dit oui à PSA pour le mariage de PSA avec Fiat Chrysler et l'État français dit non à Renault quelques semaines avant.
Parce que l'État français, c'est vrai que Bruno Le Maire, il avait exigé beaucoup de choses de la part de Fiat, qu'il y avait aussi même un troisième larron qui était Nissan.
Il ne voulait pas sacrifier l'alliance.
Et qui était les constructeurs japonais, et c'était beaucoup plus compliqué. Là, pourquoi il accepte ? D'abord parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a cette crainte sur effectivement est-ce qu'on va fermer des usines ou pas. Si vous regardez quand même sur les 20 ou 30 dernières années, le constructeur qui a été le plus vertueux en matière de maintien d'usines en France, c'est de très loin PSA qui a maintenu beaucoup plus d'usines en France
que Renault,
avec la bénédiction de son grand actionnaire qui était l'État français. Et en fait, moi je crois qu'ils sont très malins. Carlos Tavares, il est très malin et il a les moyens effectivement de jouer entre les usines pour répartir les productions, les optimiser et ne pas rentrer directement dans des conflits sociaux de ce type. Donc
les questions en suspens.
L'État français, c'était l'État français. Qu'est-ce qu'il va faire là? A priori, il est plutôt bienveillant. Et puis cette question des fermetures d'usines, et puis la question des Pays-Bas, oui, effectivement. Alors on nous dit, vous comprenez, PSA étant français, ça pouvait pas être à Paris. Fiat étant italien, ça pouvait pas être en Italie. Gian Elkann, la holding est quand même, parce que Fiat non, mais la holding est quand même déjà présente aux Pays-Bas. Et évidemment, fiscalement, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc on voit pas pourquoi ils iraient dans une destination.
Il faut dire qu'ils ne sont pas tout seuls, Christian, aux Pays-Bas. On trouve pas mal d'entreprises du CAC 40.
Alors, complètement, il faut faire attention. Quand on dit que la Suisse était le grand paradis fiscal européen ou l'Irlande, attention, les Pays-Bas, c'est un grand paradis fiscal européen.
Alors, c'est un pays qui attire tous les sièges maintenant mondiaux, et nous avec des réglementations débiles comme ce projet, ce qui est dans le projet de loi qui consiste à vouloir faire payer les patrons français, les domiciliés, etc. On a encore plus de raisons de pas installer son siège social en France. Non, mais c'est très mauvais.
Est-ce qu'il faut être moins 10 ans c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Il faudrait être moins 10 ans.
Quand
comme
on est dans un univers concurrentiel, vous pouvez pas être trop moche, quoi, voyez.
Bon. Ok, c'est pas mal comme conclusion. Voilà. Vous pouvez pas être trop moche. Moi, ce que j'aimerais, c'est un regard, Christian Chavagneux, sur finalement, au-delà de ce mariage, l'industrie automobile. On en est où ? On entend que le secteur n'est pas à la fête.
Le secteur n'est pas à la fête. L'avenir, c'est à la fois côté industrie, c'est un débat qu'on a l'habitude d'avoir, mais aussi côté service. Côté industrie, 40%. Bon, côté industrie, on sait bien. Les spécialistes nous disent que l'avenir, c'est la voiture électrique, voire la voiture autonome. Avant d'arriver là, il faut avoir des bonnes batteries. Et 40% de la valeur ajoutée d'une voiture électrique, ça vient de la batterie, d'accord ? Et là, 85% du marché est contrôlé par l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. 12% par les États-Unis, 3% par l'Europe. Donc même avec un mariage comme ça, avec deux grands constructeurs automobiles européens, ils vont être complètement largués sur le plan de la concurrence internationale pour le cœur de l'avenir, la valeur ajoutée du secteur industriel automobile.
La question, c'est qui aura... Là, vous êtes en train de poser une question qui est qui aura la valeur ? Est-ce que ce sont, par exemple, les constructeurs de batteries chinois ou asiatiques ?
Les constructeurs, exactement, qui, eux, vont avoir vraiment une partie de la valeur. Et pour la partie logicielle, ça va être Google qui va vendre ça aux voitures. Et donc, quelle valeur ajoutée va rester au constructeur automobile ? J'en sais rien. Avec les batteries dont ils disposent, la Chine a une capacité de production de 200 gigawattheures. Les États-Unis, 50. L'Europe, un peu plus de 10. Mais attention, ça c'est l'avenir du secteur automobile côté industrie, mais il y a un gros avenir côté service aussi. Pourquoi ? Est-ce qu'on va acheter ou louer sa voiture ? Pour une heure, pour une semaine, pour un an, pour plusieurs années. Et puis, Renault est entre capital d'un grand magazine économique, d'un grand hebdomadaire économique concurrent. Il est rentré en partenariat avec Ubisoft. Pourquoi ? Parce que vous avez des jeux qui bougent en fonction de la façon dont la voiture bouge. La voiture de demain, c'est non seulement une voiture électrique, voire autonome, mais c'est une voiture dans laquelle il doit y avoir des services, des podcasts, de l'information, des jeux, etc. Et ça, c'est pas sûr que PSA et le mariage PSA Fiat Chrysler nous emmènent très loin.
Ah, ça c'est la vision de Christian Chavagneux sur l'avenir de l'automobile.
Bah, là, les défis sont les mêmes pour quasiment tous les constructeurs. Hein. Vous avez ce défi technologique à court terme qui est absolument considérable et qui est renforcé par le choc des normes. C'est quand même absolument... il faut prendre la mesure du choc qui nous est imposé.
Les normes environnementales
Les normes qui ont été imposées l'année dernière. On demande en gros aux constructeurs de faire en 2 ans autant d'efforts qu'ils en ont fait en 10 ans, sous peine de sanctions absolument terribles. Il faut savoir que ça va détruire. Il y a Euler Hermès qui a fait une estimation, c'est presque 200 000 emplois qui vont disparaître en Europe. Donc c'est un véritable désastre industriel qui se prépare. Et la Chine fait la même chose. La Chine a durci considérablement ses normes environnementales qui sont un véritable Big Bang pour les constructeurs.
Ouais, mais c'était nécessaire. Après, et ça va être renforcé encore plus pour 2020.
Après, il y a la révolution de l'usage, effectivement, et c'est là. Alors, ce qu'on appelle le peak car, c'est-à-dire le moment où les gens vont acheter moins de voitures, c'est sans doute d'ici une dizaine d'années. On voit que ça se profile, hein, les gens qui achètent moins de voitures, une seule par famille, etc. Ça va être la révolution de l'usage, effectivement.
Est-ce qu'on va acheter ou est-ce qu'on va louer
Oui, mais du coup, si on a une révolution de l'usage, c'est peut-être on aura besoin de 15 fois moins peut-être de voitures. Donc voilà, ces sociétés, ce sera des sociétés de services. Par contre, quand vous discutez avec les vrais manitou de l'intelligence artificielle, qui sont ceux qui la font, les Luc Julia, les Yann Lequin, etc., ils vous disent que la voiture autonome totalement, ça n'existera jamais.
De toute façon, c'est une technologie du 20e siècle, elle est polluante, coûteuse et dangereuse, et j'espère qu'on va s'en débarrasser.
Ah mais je me demandais ce que c'était le mot de la fin de Christian Chavagneux.
Ça va devenir des vendeurs de solutions de mobilité, ces groupes automobiles, et plus seulement des constructeurs de voitures.
Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chip, merci les débatteurs du samedi. À venir dans la prochaine demi-heure, notre invité c'est le président de la centrale des cadres, la CFE-CGC, François Omeril. Avec lui on va parler du mécontentement social, des réformes sociales en cours, et puis on va parler des cadres évidemment, en particulier les cadres, près de 5 millions de salariés dans le privé, comment vont-ils ? Est-ce que l'expression « le malaise des cadres » est toujours d'actualité ? Allez, on prend son manteau, on sort du studio. Au dernier salon de l'APEC à Toulouse, entre les stands des entreprises et les ateliers conseils pour réussir son entretien de recrutement, je vous propose de faire la connaissance d'Emmanuel.
Bonjour madame, Caroline Pommel, je travaille à France Inter, je peux vous poser quelques questions ?
Oui.
Vous êtes en poste ?
Non.
Vous faisiez quoi ?
Alors j'étais en direction commerciale pendant 10 ans pour une entreprise d'agroalimentaire.
cadre depuis combien de temps ?
10 ans.
Ça fait 10 ans.
Voilà.
Ça s'est bien passé pendant 10 ans ? Vous avez toujours eu le moral ? Vous étiez bien dans vos baskets ?
Alors j'étais bien dans mes baskets, mais au bout de 10 ans, j'avais aussi envie de changement. Parce que c'est ça le souci au bout de 10 ans, c'est que tout tourne autour de notre travail. Et ce qui devient compliqué, c'est quand tout tourne autour de notre travail, on ne prend plus de recul. Et la moindre difficulté peut prendre des proportions très grandes. On n'arrive plus trop à relativiser. Voilà, on commence à pleurer pour des choses qui, de l'extérieur, paraissent anodines, parce qu'on a mal fait notre présentation PowerPoint, parce qu'on a mis une virgule à la mauvaise place, des choses complètement insignifiantes. Moi, c'est qu'un jour, j'ai ouvert l'ordinateur et j'avais l'impression de plus rien savoir faire. Et voilà, ça a été le moment où il a fallu arrêter, en fait.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai fait un burn-out, voilà.
Les premiers signaux sont arrivés quand ?
Plus au siège, du coup, quand j'étais plus proche de la hiérarchie, moins sur le terrain, quand je me sentais un peu plus libre et autonome. J'avais l'impression de passer plus de temps à justifier les actions qu'on faisait auprès de ma hiérarchie que de passer du temps à être sur le terrain avec mes clients. Et donc, c'est pas notre travail, en fait. Donc, le sens du travail devient un peu... On a l'impression de faire de l'administratif et des comptes rendus toute la journée pour notre direction.
Ce malaise, ce burn-out, c'est dû à votre statut de cadre ?
Peut-être qu'effectivement, les cadres qui ne se donnent pas de limites en termes d'horaire, parce que forcément, il n'y a pas de journée délimitée, en fait. On commence quand on veut, on termine quand on a terminé notre travail. C'est des choses qui sont plus susceptibles de nous amener à faire un burn-out, c'est sûr.
Et vous avez décidé de partir ?
Et j'ai décidé de partir, voilà.
Voilà, Emmanuel, 36 ans, qui voudrait désormais d'abord un job avec du sens, peut-être moins de salaire, mais surtout moins de reporting. Et ce souhait, il n'est pas rare de l'entendre chez les cadres. Et puisqu'on entend aussi, ce sont des doutes, parfois de la démotivation face aux nouvelles tâches qui surgissent dans l'entreprise. Est-ce que le statut fait encore rêver, les vieux comme les jeunes ? C'est la question qu'on pose ce matin, et c'est toujours au micro de Caroline Pomès à Toulouse.
Bonjour, Jean-Sébastien Fiorenzo, délégué régional APEC Occitanie. Maintenant, la population cadre est la population qui est en règle générale plutôt diplômée, bac plus 5, et c'est vrai qu'on est plutôt sur des postes à responsabilité, donc on est plutôt sur des métiers dans lesquels on est amené à se questionner régulièrement, à évoluer avec la société, à évoluer avec les usages, avec les différentes formes d'évolution structurelle, et du coup, on est amené à se poser des questions. Aujourd'hui, on ne manage plus comme on manageait il y a 15 ans. Donc il faut accompagner ces cadres sur le management des nouvelles générations. Il faut accompagner ces cadres sur l'utilisation du digital, du numérique, des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un environnement qui bouge autour de nous et qui fait qu'on est aussi amené à évoluer et à être toujours en lien avec l'évolution de la société.
Dans les années 50, après la création du statut, être cadre était une source de fierté. Mais aujourd'hui, devenir cadre, être cadre, qu'est-ce que ça signifie ? Je suis allée voir Charles Gadea, sociologue. Il suit de près l'évolution des groupes professionnels. Alors, bureau 228, c'est à gauche.
Le nombre de cadres a fortement augmenté, 15% de la population active, sachant que début des années 80, c'était autour de 5%. Ça a moins de valeur distinctive, hein. C'est moins un sujet de fierté, de sentiment de réussite d'être cadre que ça ne pouvait l'être sans doute il y a 30 ans ou 50 ans. Ça avait une force, on pourrait dire, d'attraction, même de fascination.
Et ça n'est plus aujourd'hui.
Je disais que ça s'est affaibli à cause de la banalisation. Mais n'empêche que je ne pense pas qu'on puisse dire que ça ne veut plus rien dire d'être cadre, puisque les salaires restent nettement supérieurs, puisque le chômage est nettement plus faible, puisque les responsabilités, les conditions d'organisation du travail sont différentes aussi.
Qui est cadre et qui n'est pas cadre, justement ?
C'est très difficile à dire, parce que la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un cadre n'est pas nécessairement quelqu'un qui encadre. Un cadre sur trois n'encadre personne. Deux personnes sur trois qui encadrent quelqu'un d'autre ne sont pas cadres. Donc voilà, il y a plus de non-cadres qui encadrent que de cadres qui encadrent. Et il y a une bonne proportion de cadres qui n'encadrent personne. Bref, la confusion sur la notion est presque constitutive de la catégorie. La notion de statut cadre est une chose complexe, mais qui veut dire quelque chose pour les gens qui l'incarnent.
Mais un statut qui reste mal défini, qui s'appuie sur de vieux accords de 1947. Des négociations sont d'ailleurs d'ailleurs en cours entre syndicats et patronats pour enfin trouver une définition interprofessionnelle et dépoussiérer ce statut qui, pour certains, ne fait plus rêver la jeune génération. Arnaud Lacan est professeur en management à la Kedge Business School.
Probablement que le cadre dans 10 ans sera dirigé vers d'autres fonctions que celles qui étaient les siennes par le passé. De plus en plus, cette fonction d'encadrement va se nicher dans des activités de régulation, d'animation d'équipe, et beaucoup moins dans l'exercice d'un pouvoir hiérarchique dont la ligne directrice est la verticalité. Ce qui m'amène, moi, à penser même que le nom de cadre n'est plus tout à fait adéquat et opportun.
Ça n'existe plus, les cadres. Pourtant, il y en a 5 millions en France en ce moment.
Alors, c'est compliqué de dire que 5 millions de personnes n'existent pas. Donc, bien sûr que les cadres existent, mais beaucoup plus comme un statut que comme une fonction. On voit que les entreprises cherchent d'autres notions pour passer sur une horizontalité. Alors, de manager, de leader, d'animateur, de gens qui sont finalement beaucoup plus au service de l'équipe qu'ils ne l'étaient par le passé.
Par exemple ?
Vous pouvez prendre de l'industrie internationale et aller voir chez Michelin la manière dont ils sont passés dans ce qu'ils désignent eux-mêmes être une entreprise responsabilisante, c'est-à-dire une entreprise qui, certes, va accompagner ses collaborateurs, mais en leur laissant le plus de capacité d'autonomisation et de responsabilisation. Mais vous en avez encore d'autres, de Leroy Merlin à Decathlon, en passant par Mars.
Donc c'est quoi le monde de demain ?
Je crois vraiment que les plus jeunes d'entre nous fuient le monde de l'entreprise pour échapper à l'organisation du travail dans ces grandes entreprises et donc vont se tester sur de l'entrepreneuriat, sur du travail indépendant. Si jamais les entreprises ne changent pas et continuent à apporter les mêmes réponses à des désirs de travail qui ont changé, alors probablement qu'on va avoir des entreprises qui auront de plus en plus de difficultés à salarier des talents. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, CDIiser des potentiels talents, c'est un vrai problème pour les entreprises. En revanche, si les entreprises sont capables de comprendre que ces nouvelles générations ont d'autres désirs de travail, ont d'autres envies qui est autour de l'autonomie, de la responsabilisation, alors probablement qu'elles peuvent à nouveau attirer les jeunes talents en mettant en place d'une part des fonctions managériales différentes et d'autre part sur des méthodes de travail beaucoup plus innovantes, beaucoup plus agiles, typiquement l'intrapreneuriat, c'est-à-dire offrir la capacité à des collaborateurs de développer des projets en interne de l'entreprise. La tendance actuelle étant plutôt « j'ai un projet, pour le développer, je dois quitter l'entreprise ».
Appel en cours. La fonction de cadre serait donc en transition, une période de flottement pas évidente pour ces salariés qui ont aussi mal vécu les hausses successives d'impôts des quinquennats Nicolas Sarkozy et François Hollande. À l'OFCE, Raoul Sampognaro est spécialiste des finances publiques.
Oui, allô ?
Oui, bonjour, monsieur Sampognaro, Caroline Pommès, France Inter. Je suis en bas.
Ok.
À tout de suite.
Les cadres auraient été particulièrement affectés par la politique fiscale mise en œuvre entre 2008 et 2017. Avec la volonté de contenir les déficits publics, il y a eu un choc fiscal assez important sur les ménages, que nous avons quantifié à 20 milliards sur les impôts. Et ce choc fiscal a été particulièrement concentré parmi les plus hauts revenus. Bon, maintenant, il faut un peu nuancer ce constat d'un point de vue fiscal, car depuis 2018, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, il y a un rééquilibrage de la politique fiscale. Et là, la contrainte fiscale s'est un peu relâchée. Par exemple, très concrètement, la baisse de la CSG et baisse des cotisations sociales salariées, c'est une mesure qui bénéficie le plus aux plus hauts salaires. Mais après, il y en a d'autres mesures, comme à terme, les cadres vont bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation ou des effets de la baisse de la taxation du capital à travers notamment le PFU, le prélèvement forfaitaire unique qui est, en gros, on retire les revenus du capital financier du barème de l'impôt sur le revenu.
Donc ça va mieux pour les cadres, ils sont moins visés en ce moment.
Ça s'est calmé du côté fiscal, mais l'objectif de réduction des dépenses publiques reste prégnant et aujourd'hui passera plus par la dépense. Et lorsqu'en France on parle de la dépense publique, on parle essentiellement de la dépense sociale. Donc il y a une nouvelle réforme des retraites qui s'annonce, qui est celle de la création d'un système universel unique. Et dans ce contexte-là, le gouvernement annonce très clairement qu'il souhaite prendre en compte la totalité de la carrière professionnelle d'un salarié pour calculer la nouvelle retraite. Dans ce contexte-là, les cadres ont en moyenne des carrières plutôt ascendantes, mais surtout il y a une élévation du niveau de vie général, une élévation générale du niveau de salaire. Donc dire qu'on prend les 25 meilleures années pour un cadre, ça veut dire on prend les 25 dernières années. Dans le nouveau système, le calcul de la future pension des cadres prendra en compte la totalité de la carrière et par conséquent, les cadres pourraient avoir une pension plus faible du fait de la prise en compte de la totalité de la carrière.
Quel avenir pour les cadres ? C'était le reportage de Caroline Pomès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et le président de la CFE-CGC vient de nous rejoindre. Bonjour François Omeril.
Bonjour.
Alors on va décortiquer tout ça, mais d'abord une question globale. Comment va le moral des cadres en 2019 ?
Vous l'avez pas mal décrit, il est pas très bon en ce moment, mais je pense qu'il est intéressant de regarder dans le détail pourquoi. Un des éléments qu'on peut objectiver, c'est par exemple la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour certaines entreprises, beaucoup d'ailleurs, à recruter des jeunes cadres, des jeunes diplômés.
Il y en a beaucoup qui disent non.
Oui, il y en a beaucoup qui disent non. On dit d'ailleurs aujourd'hui que lors d'un entretien d'embauche, c'est le recruteur qui passe un entretien. Parce qu'il y a une demande générationnelle qui est très forte, et nous, à la CFE-CGC, on la trouve très positive. C'est une demande de sens, de valeur, de respect, de confiance, d'autonomie et toutes ces choses-là, l'entreprise aujourd'hui n'y répond pas de façon correcte.
Alors si on regarde maintenant notre économiste en parler, l'économiste du reportage, si on regarde maintenant le porte-monnaie des cadres, si on regarde par exemple la fiscalité, ces dernières semaines, on a dit qu'Emmanuel Macron, il était aussi devenu le président des classes moyennes avec la baisse de l'impôt sur le revenu, la défiscalisation des heures sup, bon ça concerne pas les cadres, mais en supprimant la taxe d'habitation, est-ce que les cadres profitent de ce nouveau président des classes moyennes ?
Écoutez, je vois beaucoup de mesures qui sont très caractéristiques d'une politique anti-cadre, anti-classe moyenne supérieure. On reparlera tout à l'heure de ce qui concerne l'assurance chômage et les mesures de dégressivité.
Ouais, on va y venir.
Mais de toute façon, le trou creusé est quand même assez profond parce que la politique fiscale des années 2012 à 2015 ont été particulièrement sévères pour les classes moyennes et notamment la réforme du barème de l'impôt sur le revenu, le plafonnement du quotient familial, tout ça un impact extrêmement important. Les deux années concernées, 2013-2014, l'impôt sur le revenu a augmenté de 18 milliards d'euros en prélèvement. Or, ces 18 milliards d'euros, c'est à peu près 20% de la population qui les a payés, c'est-à-dire la population des cadres, de l'encadrement en général.
Et donc là, on n'est pas en train, il n'y a pas une petite machine arrière sur cette distribution ?
Alors moi, pour tout vous dire, dans le détail, on raisonne toujours à la moyenne. On va trouver telle ou telle personne qui, dans le dispositif, notamment sur les impôts locaux, va se trouver dans une position plus favorable, mais dans l'ensemble, les classes moyennes, depuis pas mal d'années aujourd'hui, sont énormément mises à contribution.
Alors, l'actualité, elle date, on va dire, d'hier. Ce sont les nouvelles règles de l'assurance chômage qui se mettent en place. Et il y a notamment cette mesure, la dégressivité des allocations des cadres pour les hauts revenus. Pourquoi dites-vous que c'est grave ce qui se passe, François Omeril ?
Moi, je pense que c'est une mesure indigne. Il n'y a pas d'autre mot, et pour tout vous dire, les arguments de défense de ceux qui veulent défendre cette mesure sont assez pathétiques.
Les arguments, c'est que, par exemple, il y a très très peu de chômage, il y a le plein emploi chez les cadres.
Alors d'abord, il n'y a pas le plein emploi, et puis je dis souvent, la moyenne, c'est personne. Quand on est un jeune cadre diplômé d'une grande école à 25 ans, effectivement, il n'y a pas de problème de chômage. Mais quand on a 53 ans, qu'on a été directeur informatique ou directeur commercial d'une grande société, qu'on est parti dans un plan social, eh bien, croyez-moi, le chômage, c'est une sacrée épreuve. Et moi, je défends les gens qui ont cotisé toute leur vie pour s'assurer contre le risque de se retrouver privé d'emploi. Et moi, je ne veux pas qu'ils soient obligés de vendre leur maison pour pouvoir continuer à financer les études de leurs enfants. Parce que très concrètement, c'est ça que met en œuvre la dégressivité des allocations chômage. Au-delà du symbole, eh bien, il s'agit de dire que les gens qui sont privés d'emploi, quel que soit leur niveau de revenu antérieur, quelle que soit leur situation professionnelle, finalement, ils ne recherchent pas activement du travail. Et donc, en leur baissant leurs allocations, on va leur mettre, entre guillemets, un peu la pression. Ça, c'est inacceptable.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas certains cadres qui, en effet, retardent un peu le moment où ils vont reprendre un boulot.
Moi, ça ne m'intéresse pas. pas qu'il y en ait. Peut-être même que des membres influents ou importants du gouvernement ont des amis
en
qui sont cadres.
Oui.
Et ils disent qu'ils en connaissent. Mais ça, c'est leur problème. Moi, mon problème à moi, c'est ce cadre de 53 ans que je vous ai déjà cité, qui peut-être n'est pas mobile, qui avait une bonne position dans l'entreprise avant d'avoir perdu son travail et qui, aujourd'hui, a de grandes difficultés à retrouver un emploi du même niveau de responsabilité et de rémunération.
Ce qui veut dire qu'en fait, pour vous, au fond, la philosophie, si on regarde plus globalement de cette réforme, est-ce qu'on peut dire que c'est la reprise de l'emploi, quel que soit l'emploi ?
C'est ça, oui, ça revient un petit peu à ça. De toute façon, la dégressivité, elle a existé dans le système français il y a plusieurs années. On l'a supprimée pour la raison que il avait été jugé que c'était totalement inefficace. Ça pousse les gens à reprendre un emploi qui n'est pas de leur niveau de qualification. Et donc, ça dévalue d'une certaine façon la pyramide des demandeurs d'emploi. Et par effet de rebond, ça a un impact sur les gens qui sont les moins qualifiés. Donc, c'est très néfaste comme mesure. Et ça sous-entend par principe qu'il y a un fort aléa moral. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, profitent du système. Or, ça, c'est faux. Toutes les études le démontrent. Et notamment, toutes les études démontrent qu'en France, que le gouvernement présente comme un système généreux, comme si c'était eux qui payaient, en fait, ce sont les salariés qui s'assurent contre le risque de perte d'emploi. Et l'aléa moral en France n'est pas supérieur vis-à-vis des autres régimes en Europe.
François Omeril, il y a aussi la réforme des retraites. Que pensez-vous des arrêts de travail à la SNCF ? On en parlait au début de cette émission. Comment voyez-vous les mouvements qui ont eu lieu ces dernières semaines ?
Bah, je pense que tous ces mouvements-là, on a eu le mouvement à la RATP, il y aura d'autres mouvements dans la fonction publique, aujourd'hui il y a SNCF, c'est le signe marqueur d'une grave désillusion et d'un fort problème dans tout un tas d'entreprises dont les ressources humaines n'ont pas été gérées. Aujourd'hui, il y a un grave désaveu de toutes les politiques qui ont été mises en place et qui aujourd'hui laissent les gens dans une grande souffrance et aussi, je pense, un grand souci sur leur avenir. Et ce qui se passe, c'est que la réforme des retraites est une réforme qui ne dit rien de ses objectifs à long terme et qui donc attaque des individus dans leur statut, dans leur situation actuelle, alors qu'en fait, le sujet est ailleurs.
Mais ma question, c'est, est-ce que vous voyez cette marmite sociale là qui commence à bouillir ? Est-ce qu'on a raison d'avoir en tête 95 ? Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une mobilisation ? Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une grève par procuration ?
Moi, je ne sais rien vous dire sur ce que sera la mobilisation. Je crois d'ailleurs que personne ne le sait, personne ne l'aspire forcément. Moi, je crois toujours que la raison peut revenir au gouvernement et que sur le sujet de la réforme des retraites, on va revenir sur des bases un peu plus saines que des slogans à l'emporte-pièce qui, là encore, je le redis, ne disent rien du vrai projet s'agissant des retraites.
Et alors, à votre avis, quel est le vrai projet pour l'instant ?
Le vrai projet, il est très simple. Aujourd'hui, les retraites, c'est 14% du PIB. C'est considéré, dans un pays comme la France, puisque pratiquement tout est par répartition, comme de la dépense publique. Bien, le projet derrière, c'est d'associer la masse totale des retraites qui sont versées à un équilibre budgétaire, et donc, à terme, de le faire réduire. Le projet, à terme, c'est de diminuer le niveau des pensions.
Est-ce que vous voyez les cadres comme perdants de cette réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui ?
Les cadres, pour tout vous dire, ils ont été perdants de pratiquement toutes les réformes. Je veux dire par là que les cadres, l'encadrement en général, c'est le plus gros contributeur de la solidarité intercatégorielle. Et moi, je dis que c'est normal. Dans une société bien organisée, c'est celui qui a le plus les moyens de le faire qui doit financer au principal la solidarité. Mais il ne faut pas qu'il en soit exclu. Or, toutes les réformes qui se sont passées depuis maintenant bientôt plus de 20 ans, ont fait monter le niveau de contribution au dispositif de solidarité et ils ont petit à petit exclu de plus en plus ceux qui en étaient les premiers financeurs. Donc ça, effectivement, ça commence à être plus que fatigant.
On entend que la réforme telle qu'elle est écrite aujourd'hui voudrait pousser certains cadres à plus de capitalisation, à prendre plus de produits d'épargne retraite. Est-ce que vous voyez cette volonté-là ?
Ça me paraît assez clair, effectivement. C'est très clairement affiché à travers la mesure, notamment du plafonnement à 4 plafonds de la sécurité sociale, donc à 3 plafonds à 120 000 euros, et donc qui génère le plus gros problème de la réforme, c'est-à-dire des droits qui ont été acquis dans l'ancien système et qui ne seront pas financés dans le nouveau système. Donc ça, c'est particulièrement inquiétant. On parle d'un déficit de financement de l'ordre de 65 à 75 milliards d'euros. C'est absolument colossal, et ça, c'est un des angles morts de la réforme.
Mais finalement, on vous écoute et on se dit, les syndicats, on entend essentiellement du mécontentement sur l'assurance chômage, sur les retraites, mais vous êtes toujours divisés.
vous n'arrivez toujours pas à peser face au gouvernement.
Je ne crois pas qu'on soit beaucoup divisé sur l'évaluation qu'on fait de certains projets de réforme. Par exemple, sur l'assurance chômage, quand il y a eu l'annonce du gouvernement des mesures qu'il allait prendre, c'était cet été, eh bien, l'avis a été unanime des syndicats. Après, on a quand même un problème en France, c'est que la démocratie n'est pas tellement respectée par le pouvoir, puisque le pouvoir ne prend pas en compte l'avis des corps intermédiaires. Or, normalement, dans une démocratie bien organisée, il y a des mandats qui sont délégués aux organisations syndicales et à l'ensemble des corps intermédiaires en général. Donc là, on a effectivement un problème, c'est que, n'étant pas entendu, on peut avoir un avis partagé sur les sujets, après, on sait plus trop comment faire pour faire valoir cet avis.
Dernière question, François Amril, vous êtes la CFE-CGC, le premier syndicat chez PSA. Donc ce mariage, vous, PSA, Fiat Chrysler, vous êtes pour ?
Je vous dirai pas plus que ce que dit ma section syndicale centrale sur le sujet, c'est-à-dire ni pour ni contre, mais très prudent. Il y a une logique à ce mariage, on le voit bien. Si Fiat ne se marie pas avec une grosse entreprise qui a pris de l'avance sur la recherche, Fiat va disparaître. Donc ce mariage, pourquoi pas. Mais il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois en France, bien entendu.
François Omeril, le président de la Confédération CFE-CGC, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Bonjour Sandrine. Alors, une question de Mathilde. Elle est responsable marketing dans une PME. On lui propose un autre boulot, mais il est à pourvoir rapidement. Doit-elle, c'est la question, absolument faire son préavis de 2 mois?
Rater un job à cause du préavis, c'est rageant, mais votre employeur, Mathilde, surtout dans une PME, doit pouvoir se retourner, trouver quelqu'un d'autre. Dans le cas où il accepte à votre demande de vous dispenser de préavis, il n'aura rien à vous payer. Si c'est niette, vous devrez travailler jusqu'au départ officiel. Partir avant, partir quand même, c'est risquer de devoir payer des dommages et intérêts à l'employeur. Normalement, ça équivaut au nombre de jours de salaire que vous auriez dû faire pour l'entreprise, mais ça peut être plus lourd en cas d'abus manifeste. Pour être parti de son entreprise de matériel de nettoyage sans demander son reste, un responsable des ventes a été condamné à verser 18 000 euros à son employeur. Il y a une façon, Mathilde, de ne pas effectuer son préavis, c'est d'être enceinte. Les femmes qui attendent un bébé peuvent démissionner du jour au lendemain sans effectuer ce préavis. Bon, juste pour un boulot, c'est tout de même un peu extrême de se lancer dans ce type d'entreprise qui engage une autre forme de préavis longue durée. Les salariés qui sont licenciés pour inaptitude n'ont pas non plus à faire ce préavis. C'est logique. Si on n'est pas en mesure de travailler, on ne peut pas exiger d'une personne qu'elle exécute le contrat jusqu'à son terme.
Alors, peut-on quand même négocier la durée de son préavis ?
Le code du travail ne fixe pas de durée, sauf pour les assistantes maternelles, les VRP et les journalistes. Pour tous les autres, elle est fixée par l'accord d'entreprise ou par la convention collective. En général, ça va d'une semaine à 3 mois, ça varie en fonction des usages, de l'ancienneté ou de la catégorie professionnelle, ouvrier, employé ou cadre. Vous pouvez toujours essayer de négocier avec votre patron et de trouver un compromis. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire la même chose avec votre futur employeur. S'il veut vraiment vous recruter, ça vaut le coup d'être patient. Là où la durée pose vraiment un problème, c'est dans le secteur public. À l'hôpital, une infirmière qui veut démissionner ne sait pas quand elle sera libérée. Elle doit d'abord écrire à son administration, qui a 1 mois pour lui répondre. Dans la fonction publique d'État, c'est même 4 mois. En cas d'avis favorable, l'administration fixe une date de départ qui peut prendre 3, 4, 6 mois. Aucun délai légal n'est exigé. Ça dépend des besoins du service dans lequel travaille le fonctionnaire. C'est bien pour la continuité du service public, beaucoup moins pour les projets d'avenir personnel.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.